Moi, je suis ravie d'intervenir pour vous tous, et j'espère qu'on aura de bons échanges. Brièvement rappeler où je travaille. Je suis dans un laboratoire qui s'appelle le CEMPPS. C'est une unité d'accueil à l'université Jean Jaurès. Et je travaille avec l'Institut des sciences du cerveau à Toulouse, qui a une plateforme technique intéressante. Hein. Je suis également membre senior de l'Institut universitaire de France. Ça, c'est pour la partie universitaire. Et pour la partie application pratique, je suis au CERESA, qui est le Centre régional d'éducation et de services pour l'autisme. C'est une association que j'ai créée avec des parents à l'époque où il fallait faire démarrer l'intervention précoce intensive, dont je parlerai à la fin de mon exposé, qui n'existait pas dans les structures déjà en place. Et donc, on a dit qu'il faut mettre ça en place. Et, les scientifiques disaient que c'était très important, et donc on a créé l'association. Et maintenant, c'est une association qui a pris beaucoup d'importance, puisqu'on a plusieurs structures. On a un CESAD, Service d'éducation et de soins à domicile, qui soutient des enfants qui peuvent être scolarisés. Donc, on a 42 places à ce niveau-là. On a une structure à Martel, qui est une structure expérimentale qui accueille 15 enfants. On a une unité d'enseignement en maternelle pour des tout-petits à Tournefeuille. Et puis, on a aussi la structure associative qui subsiste parce que le manque de place est tellement important en France que même si on crée des services subventionnés par l'État, il y a toujours une partie des personnes qui ne peuvent pas recevoir de services. Et comme mon intérêt va beaucoup au dépistage précoce et à l'intervention précoce, je vais ouvrir en septembre, toujours au CERESA, un service pour les tout-petits qui sont dépistés précocement à partir de 18 mois et même quelquefois en dessous. Voilà, on aura l'occasion de discuter de tout ceci. Alors, qu'est-ce que c'est que l'autisme? À l'heure actuelle, on sait, il y a un consensus pour dire que c'est un trouble du développement. Et on entend par là trouble du développement cérébral. Donc, trouble du développement, on sait que ça apparaît précocement et on sait également que malheureusement ça persiste jusqu'à l'âge adulte. C'est-à-dire que pour certaines personnes atteintes d'autisme, on peut s'attendre à de bonnes améliorations, mais on ne peut pas parler de guérison parce qu'il subsiste toujours certaines difficultés. Les manifestations essentielles, ce sont des problèmes dans l'interaction sociale, vous verrez les différents travaux qui ont été faits là-dessus, la difficulté à comprendre ce qui se passe dans une interaction sociale et donc à s'y ajuster, à s'y adapter, les difficultés à communiquer, et ça va de pair bien sûr, et les troubles du comportement avec des comportements répétitifs, des stéréotypies motrices. Donc c'est cet ensemble de troubles qui caractérise. Alors j'avais promis un petit historique et je vais passer très rapidement pour venir à l'actualité. Donc cette pathologie développementale a été décrite en 1943 aux États-Unis par Leo Kanner, qui a été le pionnier. Et il a décrit à partir d'un échantillon de 11 enfants, il a décrit donc des enfants qui avaient, il a utilisé un mot un peu malheureux, il a dit une incapacité à développer des relations, alors qu'aujourd'hui on sait que ça n'est pas une incapacité, c'est une difficulté et qu'avec de l'aide on arrive quand même à modifier les choses. Donc un intérêt tourné plus vers l'environnement matériel que vers l'environnement sociale, des problèmes de langage, des jeux répétitifs, un besoin d'immuabilité, c'est-à-dire un environnement qui doit rester stable, sinon on a des manifestations d'anxiété. Et puis certains îlots de compétences, j'y reviendrai tout à l'heure en vous donnant des illustrations, et par exemple une mémoire par cœur très développée qui est parfois très stupéfiante, et une apparence physique normale, c'est ce qu'il disait, donc de ces enfants. En 1944, donc de l'autre côté du monde, disons, on a eu Hans Asperger qui, lui, a décrit ce qu'il a appelé la psychopathie autistique. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux auteurs ne se sont pas rencontrés, qu'ils n'ont pas eu d'influence les uns sur les autres. Ils ont eu des chemins complètement parallèles. Parce que à cette époque, en Autriche et en Europe, il se passait des événements difficiles. Et donc, c'est surtout le travail de Léo Kanner qui a été connu, et celui de Hans Asperger a été méconnu pendant très longtemps. En plus, il publiait en langue allemande, et donc la diffusion était quand même moins bonne. Alors ensuite, il y a eu la période particulièrement pénible pour les parents entre 1950 et 1970, où on a confondu autisme et psychose infantile. On pensait que c'était la même chose, et surtout, c'était les hypothèses étiologiques qui étaient tragiques pour les parents, parce que non seulement ils avaient à gérer un enfant difficile, qu'il est décontenancé, qu'il est fatigué beaucoup, ils ne comprenaient pas comment il fonctionnait. Ben, en plus, on leur disait que c'était leur faute. Voilà. Donc il y a eu toute une époque où on a développé ces théories du parent coupable de l'autisme de son enfant. Et c'est une conception qui a été très largement médiatisée à ce moment-là. Et on a beaucoup évolué, mais je dirais qu'il y a encore quelques personnes qui sont dans cette optique-là, alors que toutes les données scientifiques qui ont été accumulées montrent que effectivement on est sur d'autres causes et que c'est plus la neurobiologie, la neuropsychologie qui vont nous apporter des solutions. Et donc, j'ai tenu à rappeler ce qu'a dit Kanner, parce que Kanner, il avait à la fois parlé de ce déficit, de cette incapacité à établir des relations qu'il disait innées. Donc déjà, lui, il avait l'idée que ça pouvait être plutôt neurobiologique. Et en même temps, il a eu à certains moments des publications dans lesquelles il décrivait des parents qui étaient froids, qui étaient intellectuels. Et donc, du coup, les gens comme Bethlehem se sont appuyés sur ces descriptions-là. Et donc, lui, il a eu un cœur de corriger ça. Et donc, dans un congrès en juillet 69, donc au même moment où l'homme faisait ses premiers pas sur la Lune, il y a eu un grand congrès. Et Kanner a fait une déclaration qui a fait date, qui a marqué beaucoup. Il a déclaré donc « Parents, je vous acquitte » et il y a tout un texte qui est magnifique et qui restaure les parents dans leur rôle de parents et les allège de la culpabilité dont on les avait affublés. Et puis, bon, après, il y a eu l'époque moderne avec la reconnaissance du soubassement neurobiologique de l'autisme avec Eric Schoeppler, qui a été mon maître, c'est avec lui que j'ai été formée au départ aux États-Unis. Et puis, donc on le voit là, on le voit avec son épouse Margaret. C'est des gens que j'ai eu l'honneur d'accueillir à Toulouse pour des formations. Eric Schoeppler a reçu la médaille de la ville de Toulouse, ça fait très longtemps maintenant. Et puis Gary Lesiboff, qui est également venu beaucoup à Toulouse après que moi je sois allée me former là-bas. Et en 1980, on a eu l'apparition de cette notion de trouble envahissant du développement pour dire que c'est un mécanisme complexe qui touche toutes les fonctions. C'est pour ça qu'on parle de troubles envahissants du développement. Et c'est Lorna Wing qui a commencé à utiliser ce concept-là. Et c'est elle aussi qui est allée rechercher les travaux d'Asperger, qui les a traduits en anglais. Et c'est à ce moment-là que le syndrome d'Asperger, dont on parle beaucoup à l'heure actuelle, a été connu. Et le syndrome d'Asperger, c'est la forme, si vous voulez, d'autisme avec un niveau intellectuel normal, voire supérieur, hein, pour faire vite. Et c'est dans ces années-là aussi qu'apparaît la notion de troubles neurodéveloppementaux, c'est-à-dire que l'on reconnaît que, bien sûr, il y a l'autisme, mais il y a toute une nébuleuse de troubles qui émergent à partir d'anomalies dans le développement du fonctionnement cérébral. Et aujourd'hui, c'est une notion forte parce qu'on sait que l'autisme est souvent associé avec d'autres troubles. Et donc, on est arrivé aujourd'hui à la notion de spectre de l'autisme pour montrer que, bien sûr, on a des altérations de la communication et de l'interaction sociale, des comportements problématiques et un problème d'imagination, un défaut d'imagination. Donc, si vous voulez, le spectre traduit le fait que les individus présentent plus ou moins ce type d'anomalie. C'est-à-dire qu'on va du moins marqué jusqu'au plus marqué, c'est la notion de spectre. Et en plus, à ces altérations viennent s'ajouter ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire la déficience intellectuelle plus ou moins marquée, voire une absence de déficience intellectuelle, et même on a certaines personnes qui ont un niveau vraiment supérieur intellectuellement parlant, et puis toutes sortes de comorbidités psychiatriques ou neurologiques, l'épilepsie, chez les personnes les plus évoluées intellectuellement, souvent à l'adolescence, on a l'apparition de troubles comme dépression, anxiété, qui sont liés à la prise de conscience de la difficulté dans l'environnement. Donc c'est vraiment quelque chose de complexe. On n'est pas dans un tableau simple. Et les différentes personnes qui présentent ces troubles peuvent avoir des expressions extrêmement variées. Alors je discutais avec un monsieur qui est directeur de recherche à l'ICERN et il est allé fouiller dans la littérature et je lui promettais de montrer ma courbe. Regardez à combien on est arrivé en 2014, 1 sur 68. Alors qu'on est parti en 1975 de 1 pour 5000. Et ce qui veut dire que en France, il y a entre 300 000 et 650 000 personnes touchées par l'autisme. Donc au départ, on parlait d'une maladie rare. Et donc, on n'est plus du tout dans le contexte d'une maladie rare. Et la représentation qu'on en a est quand même très faussée, puisque à l'heure actuelle, 85% de la population pense encore que l'autisme ne touche qu'à peu près 50 000 personnes en France. Donc, il y a un décalage entre ce que l'on croit et puis ce qui existe. Je vais revenir sur les raisons de cette augmentation possible. Donc le sexe ratio, l'autisme est vraiment représenté de manière inégale entre les garçons et les filles. On a 4 garçons pour une fille, pour la forme la plus typique de l'autisme. Lorsque l'autisme est associé à un retard mental, on a 2 garçons. Et lorsque l'autisme est sans retard mental, on a, c'est ce qu'on dit à l'heure actuelle, 6 garçons pour une fille, mais ça risque, c'est une statistique qui risque d'être bousculée, parce qu'actuellement, il y a des travaux qui montrent que il y aurait peut-être plus de filles ayant un niveau intellectuel élevé, parce qu'elles ne sont pas détectées, parce que ces filles ont une tendance beaucoup plus grande que chez les garçons à essayer à faire des efforts pour imiter et donc pour se glisser finalement dans la peau d'un personnage. Elles font des efforts très très grands pour être conformes et pour être au milieu des autres, et donc souvent elles ne sont pas détectées. Donc les chiffres là sont peut-être à discuter. Alors, je croyais que j'avais une diapo. Bon, je vais quand même faire le petit commentaire sur les chiffres, même si ça revient plus tard. À quoi ça correspond, cette accélération là? Alors, il y a plusieurs explications possibles. D'abord, on détecte mieux. On a mis au point des outils pour le dépistage. L'information sur l'autisme est quand même beaucoup plus diffusée. Et on est capable maintenant de détecter les formes les plus extrêmes, c'est-à-dire aux deux extrémités de la courbe d'âge. On a les tout petits, avant on les ignorait complètement. Moi je me souviens avoir fait des diagnostics pour des enfants à 6, 7, 8 ans, même 13 ans, des parents qui n'avaient pas encore reçu de réponse aux problèmes présentés par leur enfant. Et maintenant, donc, on détecte les tout-petits. Et puis, on détecte aussi ces personnes dont je viens de parler, qui ont un niveau intellectuel élevé, mais qui ont des inadaptations sociales. Et autrefois, on avait tendance à banaliser en disant... Bon, ce sont des originaux. D'ailleurs, on en trouvait beaucoup dans les laboratoires de recherche, des Asperger. Il y en a beaucoup aussi chez les informaticiens. J'espère qu'il n'y en a pas trop dans la salle, les informaticiens. Parce que ça correspond à... alors, attention, je n'ai pas dit que tous les informaticiens étaient autistes. Hein, mais ça correspond à une certaine tournure d'esprit extrêmement logique, avec une logique implacable. Et aussi, pour les personnes qui sont atteintes d'autisme, bien sûr, une grande rigidité, leur difficulté d'adaptation est parfois une qualité, parce qu'ils arrivent à traiter les choses dans le détail avec une certaine rigueur. Et donc, ils peuvent être appréciés, effectivement, dans certaines professions. On pense aussi qu'il y a peut-être quand même une réelle augmentation. Parce que si on dit tout ça, on dit, bon, ce n'est pas une vraie augmentation, c'est une augmentation de la détection. Mais il se peut qu'il y ait quand même une augmentation, en tout cas cliniquement. Moi, je remarque qu'on reçoit beaucoup plus de jeunes enfants. Et donc, il y a eu plusieurs hypothèses sur lesquelles je reviendrai. Qui pourrait expliquer donc une recrudescence des cas d'autisme. L'origine est encore mal connue, mais en tout cas il y a un consensus sur le fait que ça a une origine organique et il y a certainement une prédisposition génétique. J'ai eu la chance de participer à un grand consortium de génétique moléculaire de l'autisme. Moi, j'assurais la partie clinique, bien sûr, parce que je ne suis pas généticienne. Et on travaillait sur les familles à cas multiples. Et donc, c'est un des arguments pour dire qu'il y a de la génétique là-dessous, quand même, parce qu'il y a des familles dans lesquelles, effectivement, on retrouve plusieurs personnes atteintes. J'ai vu une famille, alors c'est déjà lourd pour les familles quand il y en a deux, mais j'ai vu une famille en Angleterre qui en avait sept, tous atteints. Et c'était, mais alors les gens disent souvent ils auraient dû s'arrêter de faire des enfants, mais non, c'était des sextuplés, des enfants qui étaient nés tous en même temps. Et voilà, donc les pauvres parents et les pauvres enfants, je dirais, parce que c'était des petites filles qui étaient très atteintes, et vraiment on se dit quel malheur pour les enfants eux-mêmes et pour les parents. Enfin, c'était très très difficile. Donc une approche génétique avec certainement une prédisposition, une approche neurobiologique, hein, on a des éléments en faveur de problèmes au niveau du système nerveux central, et une approche environnementale avec selon laquelle ben, l'autisme pourrait découler d'une agression qui surviendrait tôt et qui serait en relation avec des facteurs environnementaux. Alors, on a parlé d'agents infectieux qui avaient entraîné des traitements par les antibiotiques. On a parlé des métaux lourds, c'est pas vraiment prouvé. On a parlé des pesticides. C'est vrai que les pesticides peuvent avoir au niveau du développement cérébral des effets délétères. Et il y a eu des études en Italie, dans la plaine du Pô, où il y a des cultures extensives et où on utilisait les organophosphates. Et il y a eu une réplication aux États-Unis dans les grandes plaines du Manitoba, même situation. Et quand même, il y avait une prévalence beaucoup plus importante. Donc, c'est vrai qu'il y a peut-être dans l'augmentation des cas, du nombre de cas, une cause environnementale, sans revenir bien sûr à la cause relationnelle d'autrefois. Les organophosphates ont été interdits, hein, ils ne sont plus utilisés. Et il y a tellement de produits aussi toxiques qui circulent dans l'environnement que on peut penser que ça peut jouer. Alors, les arguments en faveur de la génétique, justement, risque de récurrence accru chez les frères et les sœurs, et quelquefois, on a aussi des familles dans lesquelles on a des frères, des sœurs, mais on a aussi des cousins, on a un grand-père. Quand on a fait cette étude génétique, on faisait les arbres généalogiques et on retrouvait des gens atteints, ou même des gens qui n'avaient pas été diagnostiqués, mais dont on pouvait se dire avec du recul que peut-être ils avaient été atteints. Les études familiales dans lesquelles... Alors, on a développé la notion de phénotype élargi. Le phénotype, ce sont les caractéristiques comportementales, ici. Et donc, certaines personnes, dans 12 à 20% des apparentés au premier degré, présentent certains signes qui évoquent l'autisme, certaines difficultés, mais ils n'ont pas l'ensemble des signes pour être diagnostiqués. Mais c'est quand même des gens qui sont un peu particuliers, mais qui trouvent quand même à s'adapter. Et puis, à l'association avec des maladies génétiques, des anomalies chromosomiques, donc tout ça plaide vraiment en faveur d'un soubassement génétique. Alors, à certains moments, les gens voulaient trouver un gène de l'autisme. Mais justement, c'est ce consortium avec lequel j'ai travaillé. Vous voyez, on est loin d'être sorti d'affaire, parce que si on veut trouver un gène de l'autisme, là on est mal parti, parce qu'il y en a à peu près partout qui ont été justement associés à l'autisme dans les familles où il y avait au moins deux personnes atteintes. Donc on est loin d'avoir une explication génétique qui serait claire. C'est de toute façon sans doute une pathologie qui répond à un modèle polygénique et qu'on n'a pas encore tout à fait pu éclairer. Donc les facteurs, il y a des facteurs environnementaux qui pourraient contribuer à l'étiologie de ce trouble. Bon, l'âge avancé chez les parents, et parfois on a dit chez les pères, pourrait être une cause. La prématurité, il y a ici à Toulouse un réseau qui s'appelle TIMIP avec lequel on travaille, effectivement il y a une surveillance spécifique, ça constitue une population à risque, les enfants prématurés. Des enfants qui ont subi des complications à l'accouchement. Mais toutes ces causes environnementales, finalement, elles rencontrent une susceptibilité génétique, une fragilité, et donc ça donne l'expression du trouble. Alors on a aussi essayé d'incriminer d'autres facteurs comme les vaccins. Les vaccins, ça a été la grande mode à un moment. Alors quand ce n'était pas le contenu du vaccin, après c'était les produits associés avec notamment le mercure dans les vaccins, on a montré qu'il mourait plus d'enfants non vaccinés que d'enfants atteints d'autisme finalement. Hein, on a plus intérêt, ce que je veux dire, c'est qu'on a plus intérêt à vacciner les enfants qu'à éviter le vaccin pour prévenir l'autisme. En fait, il n'y a pas de lien qui a été vraiment démontré. Les métaux lourds, ça n'a pas non plus été confirmé. Et il y a peut-être un peu la pollution, mais ça non plus, pas d'études scientifiques qui vraiment permettent d'affirmer qu'on a trouvé certains déterminants. Alors, qu'est-ce qui va dans le sens de l'approche neurobiologique? On a une association forte avec l'épilepsie. 25% des personnes avec autisme développent une épilepsie à l'adolescence ou à l'âge adulte. Ça montre quand même une fragilité au niveau des mécanismes cérébraux. Et on a montré aussi qu'il y avait une masse cérébrale élevée avec un périmètre crânien quelquefois très en dehors des normes. On a montré aussi des anomalies de structure, d'organisation au niveau du système limbique et du cervelet. Et plus récemment, évidemment, avec l'imagerie, on arrive aussi à montrer d'autres problèmes. Donc à l'imagerie, on a montré que on retrouve cette augmentation de la masse cérébrale et on pense que c'est lié à un moment du développement qui serait perturbé. Vous savez, à un moment, le cerveau se développe et après, quand les connexions ont commencé à se spécialiser, il y a une mort des cellules qui sont, au fur et à mesure qu'elles se spécialisent, il y en a qui vont être, ce qu'on appelle l'élagage, des cellules qui vont mourir. Et donc on pense que peut-être c'est dans cette période d'élagage et de spécialisation des connexions entre les neurones qui aurait peut-être, au moins dans certains cas, un problème. Quelquefois un problème d'hypoplasie, c'est-à-dire de mauvais développement au niveau du cervelet, mais on n'est pas sûr que ça soit spécifique de l'autisme parce que ça se retrouve dans beaucoup d'autres anomalies du développement. On a montré aussi des problèmes au niveau du tronc cérébral avec un vernis cérébelleux qui est plus petit quand on compare aux enfants du même âge. Et ensuite, on est passé à l'imagerie fonctionnelle, puisque là, c'était du statique. Et on a les travaux de Monica Zivovicius, qui est quelqu'un qui est venu aussi beaucoup travailler avec nous à Toulouse. Alors, on voit sur ces images, vous voyez, des cerveaux dans lesquels on voit une activité au niveau du lobe temporal. Et vous avez... Donc cerveau gauche, cerveau droit. Vous avez au niveau ici de ce graphique l'intensité de l'activation dans cette zone. Et vous voyez qu'on a ici les contrôles, les personnes qui n'ont pas de problème de développement, ici les autistes. Donc il y a une différence qui est significative. La tache verte traduit l'activation, le fonctionnement. Et ici, pareil, on a une différence significative. Et donc, ça montre que dans cette zone du cerveau, qui est le sillon temporal, il se passe des choses, au moins, il y a une moindre activation. Et on va voir que ça a été mis en relation, justement, avec tout ce qui est contenus sociaux. C'est-à-dire que quand on regarde un visage, quand on est en train d'interagir avec quelqu'un, cette zone cérébrale s'active, ça correspond effectivement au fonctionnement social, à la compréhension de ce qui se passe. Alors on a montré aussi dans le IRM dynamique ici, c'est-à-dire qu'on va diffuser la voix humaine, on est son, et on voit s'activer alors, toujours dans le même secteur. Alors, cette étude, elle était intéressante. On a ici des témoins et les autistes en bas avec pas du tout de réaction à la fois. Quand on sait qu'il y a des problèmes importants de langage, on se dit qu'il y a déjà à la base une difficulté certainement de reconnaissance du signal en tant que tel, hein, et donc de sa signification sociale. Donc ici, même chose, vous avez en bas les personnes avec autisme. Donc vous voyez, il y a une diversité, hein, de réponses, mais en haut, vous avez les témoins. En général, il y a une activation bilatérale, et en bas, vous avez les personnes avec autisme où il n'y a pas du tout d'activation en réponse à la voix, et ou alors une activation unilatérale. Il y a aussi des aspects biochimiques qui ont été investigués. Donc, il y a différentes substances des neuromédiateurs qui sont dans le cerveau. Et donc, la sérotonine, élevée dans 30 à 50% des cas chez les personnes avec autisme. La dopamine interviendrait, puisque on voit que quand on bloque les récepteurs, on a une diminution de certains symptômes, alors que quand on stimule ces récepteurs, la dopamine, on a une aggravation des symptômes. C'est souvent les modèles animaux, hein, qui servent pour ces aspects biochimiques. Et puis au niveau des peptides, on a montré par exemple que la naltrexone permettait qui est un opiacé, permettait de réduire des troubles du comportement très graves comme les automutilations. Bon, tout ça, ce sont des pistes, des choses qu'on n'arrive pas pour l'instant à mettre toutes ensemble pour faire un modèle. On voit bien qu'il y a des causes diverses et variées. On arrive à saisir certains phénomènes, mais on n'arrive pas forcément à faire tout un modèle. Alors, on sait que c'est un problème neurodéveloppemental, et on sait que ce problème-là donne des particularités cognitives, c'est-à-dire dans le fonctionnement intellectuel et donc dans la manière de s'adapter. Parce que ce sont des personnes qui perçoivent l'environnement physique et social d'une manière différente des autres personnes, et donc ça induit des comportements particuliers. Alors, il y a des particularités cognitives. J'ai parlé de la déficience intellectuelle. Il y a quand même une majorité de personnes atteintes d'autisme qui ont aussi une déficience intellectuelle plus ou moins marquée. On a des anomalies de langage et on a beaucoup d'anomalies de l'intégration des informations, et c'est ça qui va créer des difficultés au quotidien pour faire des apprentissages et pour s'adapter à l'environnement. Alors, sur le plan cognitif, sur le plan intellectuel, on a un fonctionnement qui est souvent très hétérogène, et quand on essaie de mesurer avec des tests habituels, on s'aperçoit que chez la majorité des personnes avec autisme, tout ce qui est verbal est très inférieur à ce qu'on appelle la performance, c'est-à-dire l'intelligence plus pratique. Et donc, surtout chez les personnes qui ont une grande déficience intellectuelle. Mais à côté de ça, on a aussi de grosses difficultés d'abstraction, de grosses difficultés dans la compréhension verbale. Alors, souvent les parents nous disent « mon enfant comprend tout ». Et ils n'ont pas tout à fait tort, parce que dans l'environnement familial, on voit que l'enfant comprend des choses. Mais ce qu'on oublie là, c'est que dans l'environnement familial, le langage est mêlé avec d'autres indices. Et quand on a des choses qui se répètent au quotidien, ben évidemment, l'enfant s'adapte. Et ça n'est pas forcément la consigne verbale qu'il comprend, mais c'est on prépare tout ce qu'il faut pour aller au bain, par exemple. Et donc, il a compris, mais il n'a pas compris parce qu'on le lui a dit. Et c'est vrai que ça, c'est une des choses qu'on doit expliquer souvent aux parents, parce que quand on s'adresse à un enfant et qu'on le surcharge en langage alors qu'il ne comprend pas, c'est quelquefois la source de troubles du comportement. Ensuite, ils ont du mal à comprendre les séquences temporelles, ils ont du mal aussi à coder l'information et ils ont du mal à comprendre tout ce qui est social. Ça, c'est l'essentiel. On a des personnes avec autisme qui ont un très bon niveau intellectuel et qui, par ailleurs, ont une incompréhension vraiment très importante de tout ce qui est social. Alors, c'est pas l'intelligence là qui est en jeu, c'est une forme de compréhension seulement qui est touchée. Alors ils ont des points forts aussi, et ça c'est intéressant, parce que quelquefois on peut rebondir pour les aider, pour les valoriser, en utilisant justement leurs points forts. Ils ont souvent des capacités spatiales et perceptives très importantes qui leur donnent des compétences dans des manipulations d'objets où il faut, par exemple, reproduire des puzzles. Quelquefois, des enfants, c'est pratiquement un signe, un enfant qui a 18 mois est capable déjà de faire un puzzle très très compliqué. Soit c'est un surdoué, soit s'il y a des autres signes avec, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent dans l'autisme. Et puis il y a la mémoire par cœur, avec des capacités extraordinaires à répéter des chiffres, à mémoriser des numéros de téléphone par exemple. Mais nous, si on mémorise des numéros de téléphone, c'est pour les utiliser, c'est pour souhaiter l'anniversaire d'un ami. Mais eux, c'est vraiment l'intérêt de mémoriser uniquement les chiffres et l'utilisation sociale. C'est pas tellement ça qui va les motiver. Alors, je vous ai apporté quelques illustrations pour montrer les îlots de compétences. Voilà, ça c'est extrait d'un livre sur une petite fille avec autisme, Nadia, qui à l'âge de 4 ans était capable donc de dessiner ce cheval en mouvement. C'est assez impressionnant hein, comme compétence. Alors je vais vous en montrer plusieurs. Voilà, Nadia aussi à 4 ans, le coq. Alors, ce qui est intéressant et triste en même temps chez Nadia, c'est que c'est une enfant qui s'est ouverte socialement, comme c'est souvent le cas. Hein. Les enfants au-delà de 5-6 ans marquent une évolution quand même et s'ouvrent un petit peu plus socialement. Mais dans l'histoire de Nadia, il y a une perte des compétences exceptionnelles qu'elle avait avec le progrès social. C'est-à-dire quand elle s'est ouverte, qu'elle a commencé à mieux communiquer, alors elle a perdu complètement ces compétences-là. Et ben, ça nous fait réfléchir sur le processus qui est sous-jacent. Hein, Et voilà alors notre ami Gilles qui a créé une ville. Alors son papa était informaticien à New York et donc Gilles a une passion pour les gratte-ciel qu'il dessine à main levée. Hein. Il n'utilise pas du tout de règles, il fait ça comme ça. Il peut passer des journées entières à faire ça. Et ce qui est intéressant, alors il a créé cette ville, Urville. Alors vous voyez, il est capable d'utiliser des points de vue différents. Et donc c'est un garçon que je connais bien, qui est un adulte maintenant, et il a des classeurs dans lesquels il a donc une première vue de building, et puis vous tournez la page et vous avez la même vue avec un décalage de 45 degrés par exemple. Alors ça l'amuse beaucoup de faire ça, et alors on retrouve exactement les mêmes mesures, enfin on pourrait les superposer. Et il le fait sans aucun outil, sans aucun instrument. Donc il y a quelque chose là au niveau de la compétence visuelle. Alors Gilles n'est pas unique en son genre, il y a un Anglais aussi, un jeune Anglais, qui regarde une fois un bâtiment et il se retourne et il le dessine. C'est ce qu'on appelle la mémoire photographique. Et donc, vous voyez, ce sont des personnes qui, dont on parle souvent avec leurs déficits, mais il y a aussi certains talents qui peuvent être exploités dans le bon sens, hein, à leur avantage. C'est-à-dire, c'est une manière aussi de pouvoir les valoriser, leur montrer qu'elles peuvent faire des choses. Voilà. Alors, Gilles a inventé cette ville, mais à un moment, son appartement était envahi parce qu'il mettait les papiers par terre et puis continuait. Voilà. Et lui a eu une assez bonne évolution parce que, moi, je le vois depuis très très longtemps. Et, non, je ne fais pas cette vue. Parce qu'il y a une vue, si c'est celle-ci, vous voyez, là, il y a apparition d'autre chose, ce sont des humains. Et donc, il a passé des années à faire des buildings, c'était très minéral, c'était... Et là, ça s'enrichit, il commence à y avoir des végétaux, il commence à y avoir des êtres vivants, ce qui est intéressant. C'est un garçon qui a pas mal réussi, qui est bien soutenu par sa famille, et qui avait un potentiel très important. Et il est en couple avec une jeune femme qui est aussi Asperger. Et donc ils sont assez touchants tous les deux parce que lui il fait des dessins comme ça. Alors ils peuvent passer des après-midi entières à faire ça. Et elle modélise sur le plan mathématique et elle... par exemple, elle dessine aussi, mais elle dessine, par exemple, une ratatouille. Elle m'a montré ça. Alors, elle dessine la ratatouille avec les petits morceaux de légumes.